bas à gauche. Prenez culturel.
Alors, c'est cette fameuse chronique culturelle. Alors, c'est une chronique culturelle où je vais vous parler de la pièce de théâtre, mais je vous en parlerai pas trop parce que ça serait un peu cruel puisque la pièce a été jouée la semaine passée. J'ai eu le plaisir d'aller la voir et elle ne sera pas rejouée pour l'instant. Par exemple, elle sera disponible sous peu sur Internet, sur le site des apartistes qui feront en plus une, vous pourrez la voir pour une modeste contribution qui permettra de financer le fonds de solidarité et de défense avec les personnes arrêtées au G20. Alors, le procès des cinq, étant Chartrand, Vallière, Gagnon, Lemieux et Larue Langlois. Donc, c'est cinq personnes militantes qui, dans la foulée des enlèvements de James Richard Cross et de Pierre Laporte par le Front de libération du Québec, FLQ, ont été arrêtés dans le cadre de la loi des mesures de guerre qui avait été proclamée le 16 octobre 70. Alors, le procès en tant que tel commence le 8 janvier 71. Et alors là, dans le livre qui est publié chez Lux Éditeur, qui est en fait... comme le soulignaient les apartistes, il y a absolument rien qui a été rajouté. C'est ça qui est merveilleux. Ils sont arrivés sur scène et ils ont dit... Vous allez croire qu'on en a rajouté, vous allez croire qu'on a bonifié la situation, mais ce n'est pas le cas. Et donc les apartistes nous expliquent que ce texte donc qui a été remis ensemble est directement du copier-coller des 600 pages de transcripts du procès. C'est-à-dire que, et ça a été publié la première fois en 71 pour financer la lutte pour les prisonniers et prisonnières politiques de 70. Et donc, ils ont pris des extraits de ce procès. Alors, ce qui frappe à l'œil, c'est de voir le type de conversation qui était possible avec le juge. Alors, on se demande d'abord, est-ce que c'était comme ça dans le temps, en 70? Ça avait l'air ben le fun de parler à un juge. Et on se rend compte que c'est aussi les personnes, donc dont Michel Chartrand, qui évidemment, on s'en doute, est tout à fait éloquent. Alors il y a quelques citations, quelques scènes incroyables, comme le juge qui décide ayant utilisé tous ses recours d'outrage à magistrat contre les cinq, qui décide de faire un huis clos, donc de vider la salle. Là, on est rendu à peu près en février, donc on se rappellera, là, ils ont été détenus le 16 octobre le matin, leur procès a commencé le 8 janvier, là on est rendu au mois de février, et le juge décrète un huis clos. Et alors là, on entend la tirade officielle de Chartrand qui fait juste dire « Eh bien, s'il n'y a plus de public, monsieur le juge, vous avez perdu votre accusé. Moi, je refuse de me faire juger, pas de public. » Et il est retourné dans sa cellule. Alors on voit les cinq, en fait, les quatre beaucoup là, qui parlent le plus, puisque un était représenté par un avocat, malmener le juge et faire le procès de la justice canadienne, en fait. Et critiquer clairement le fait que c'est pas un juge, c'est pas une justice impartiale qui les juge, mais bien le Parti libéral du Québec comme du Canada, et donc faire voir le caractère politique, puisque leur accusation c'est conspiration séditieuse, et le juge va tenter tout le long de dépolitiser l'affaire, c'est-à-dire de faire comme si une conspiration n'avait aucun rapport avec la politique. Alors, véritable pièce de théâtre, le procès des cinq contient les extraits les plus significatifs, puis ça finit au 11 février 1971. Alors, je suis navrée, écoutez pas la suite, baissez votre radio, bouchez-vous les oreilles, je vais vous vendre le punch. Mais pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, ça sera pas une grande nouvelle, et ça ne fait rien perdre à l'intérêt de la pièce et du texte. C'est que finalement le juge, alors il reconnaît le bien fondé de la loi des mesures de guerre, puisque les accusés lui demandaient de la remettre en question. Il en reconnaît le bien fondé, mais il admet que les preuves qui sont avancées jusque là sont à peu près impossibles pour identifier un crime précis, puisqu'on les accuse de l'ensemble de leur œuvre politique. Alors c'est une bonne lecture à avoir en ce mois d'octobre. On a beaucoup entendu parler de octobre 70, puisqu'on en fêtait les 40 ans. Puis on va avoir une petite pause publicitaire et après ça, on va se retrouver avec François Baillargeon, qui a une maîtrise en histoire du Québec, pour refaire un petit peu le contexte historique. Alors pour ce qui est du procès des cinq, c'est donc aux éditions Lux Éditeur. Vous pouvez avoir plus de détails sur leur site web, www.luxediteur.com. Alors ça fait partie de leur dernière création. Alors le titre, Le procès des cinq, avec une préface de Louis Hamelin. On vous laisse avec cette petite pause publicitaire et on vous retrouve dans un instant pour la suite de la chronique culturelle à En bas à gauche sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Et donc sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, vous êtes de retour avec la chronique culturelle et nous sommes donc en onde avec François Baillargeon qui a une maîtrise en histoire du Québec et donné une conférence vendredi passé à la maison Normand-Béthune. Et donc, on va lui poser quelques questions sur les 40 ans de la crise d'octobre. Alors, bonjour François. Bonjour
oui.
François.
Oui.
Oui, on a un petit problème de téléphone. Alors, merci d'être avec nous ce matin.
Merci à vous.
Donc, on t'a invité aujourd'hui pour nous donner un petit peu une perspective de l'héritage de la crise d'octobre et de tous ces événements-là et aussi de quel point de vue on peut avoir dessus aujourd'hui au Québec en 2010, puis un point de vue un peu alternatif sur tout ce qu'on a pu voir dans les médias ces derniers jours.
Parce que je vous propose, c'est une petite rétrospective du FLQ dans son ensemble. Parce que le FLQ, selon moi, ce sont déjà trois lettres qui contredisent bruyamment l'idée reçue, selon laquelle, durant les années 60, la révolution au Québec est restée tranquille. La crise d'octobre en 70 a un petit peu contribué à rapetisser la mémoire qui nous est restée du FLQ, à l'aplatir là, dans un seul événement de ces quelques jours d'octobre. Mais en fait, pour bien saisir l'importance du phénomène, il faut se rappeler que le FLQ, c'est pas moins de 10 ans de violence politique, tout près de 10 ans de violence politique. En fait, ce sont plus précisément là, des dizaines, voire des centaines d'explosions, de bombes, parfois désamorcées, des braquages de banques, des vols d'armes. L'activité du FLQ a commencé en fait à la fin de l'hiver 1963. Il est émergé dans un contexte de montée du nationalisme québécois, qui était moins conservateur qu'autrefois, plus revendicateur. Un nationalisme qui s'exprime aussi dans toutes les couches de la société. Le Parti libéral au pouvoir depuis 1960, avec Le Sage et Lévesque, a entrepris plusieurs grandes réformes pour donner plus d'ampleur à l'État provincial, notamment pour appuyer le développement d'une bourgeoisie francophone. Mais il y a une partie de plus en plus grande des nationalistes de l'époque qui en viennent à penser que la nation québécoise pourrait jamais traiter d'égal à égal avec les anglo-saxons sans avoir son propre État souverain. C'est le début du mouvement nationaliste indépendantiste qu'on connaît encore aujourd'hui avec le Parti québécois. À cette époque-là, c'est le projet que se s'est donné le Rassemblement pour l'indépendance nationale, le RIN, qui est fondé en 1962. Alors, il y a quelques jeunes militants, membres du RIN, qui veulent accélérer la marche là, du mouvement de libération nationale en déployant une propagande armée. Ils mettent sur pied une organisation clandestine, le FLQ, et amorcent une série d'attentats à la bombe contre des symboles du colonialisme anglo-saxon. Leur aventure ne dure cependant que quelques mois avant que la police ne démantèle leur réseau par une rafle d'arrestations. Il faut croire cependant que leur idée était bien de son époque, parce que le FLQ renaît rapidement de ses cendres. Pendant 10 ans, les cellules du FLQ vont se succéder, à être décimées par la police, puis remplacées par d'autres. En fait, le FLQ, c'est pas une organisation. C'est davantage un symbole, une bannière qui est de plus en plus célèbre et que différents réseaux vont s'approprier successivement, parfois même concurremment, pour reprendre un combat qui n'est pas toujours tout à fait le même. Il y a deux idées qu'on peut identifier là, comme le noyau dur de ce que représente le FLQ de son début jusqu'à sa fin. Évidemment, le projet d'indépendance nationale et l'idée selon laquelle la violence politique est un accélérateur de l'histoire. Mais au-delà de ces deux points d'unité assez restreints, le programme politique des FLQistes a beaucoup changé à travers les années 60. Les premiers réseaux du FLQ sont surtout des nationalistes radicaux. Leur combat est avant tout anticolonial et c'est le combat autant que possible de toute la nation. Leurs cibles, ce sont l'armée canadienne, Post-Canada, des édifices gouvernementaux canadiens, Westmount, les grandes compagnies de chemin de fer, bref, des symboles de la domination du capital anglo-saxon et de l'État fédéral. C'est en 1965, avec la venue de Pierre Vallière et Charles Gagnon, qui sont sans doute les deux figures là, les plus intéressantes du mouvement, qu'un certain FLQ s'engage de plus en plus résolument dans la direction de la révolution socialiste. Ces deux-là parlent de fonder un parti révolutionnaire qui serait capable de mener une véritable guerre de guérilla. Et leur cible n'est plus le colonialisme anglo-saxon, mais l'impérialisme américain. La libération nationale passe pour eux par l'abolition du capitalisme. Donc, ce n'est plus, c'est l'affaire dorénavant des travailleurs et non de la bourgeoisie. Leur modèle avoué à cette époque-là, ce sont Che Guevara, les communistes chinois, les communistes vietnamiens. Et le FLQ de Vallière-Gagnon, c'est en quelque sorte un mouvement pré-marxiste-léniniste qui annonce donc les années 70. Les réseaux suivants gardent une orientation progressiste. Les très nombreux attentats de la fin des années 60 avec le réseau de Pierre-Paul Geoffroy ont une forte connotation anticapitaliste en s'attaquant à des usines aux prises avec des conflits de travail ou en ciblant des chefs d'entreprise. Pendant toutes les années 60, les actions du FLQ ont essentiellement pris la forme d'une propagande armée. Les actions étaient à la fois violentes et symboliques, avec l'objectif de répercuter bruyamment des idées politiques. Mais l'offensive déclenchée par deux cellules du FLQ en octobre 70 a fait monter les enchères de plusieurs crans d'un seul coup. Donc, en enlevant, comme on le sait, un attaché commercial britannique et un ministre du gouvernement québécois, les FLQistes ont engagé avec l'État un bras de fer qui était inédit dans l'histoire de leur mouvement. Ça ressemble en fait plus à une fuite en avant. Surtout à la lumière des moyens là, dont ils disposaient pour faire face à la suite des événements. C'est d'ailleurs ce que suggérait récemment l'ex-FLQiste Paul Rose dans une entrevue dans laquelle il rappelait le contexte étouffant de répression politique croissante des années précédentes qui les avait amenés, lui et ses camarades, là, à faire un grand coup d'éclat. On a souvent suggéré que c'est la mort du ministre Laporte aux mains de ses ravisseurs qui a sonné la fin du FLQ, qui a notamment aliéné la sympathie populaire. Mais en fait, c'est oublié que les actions du FLQ avaient déjà fait des victimes dans le passé, qui étaient souvent autrement plus innocentes que le ministre du Travail. En fait, le traumatisme d'octobre 70, c'est bien davantage le recours à la loi des mesures de guerre et l'arrestation sans mandat ni accusation de plus de 400 personnes. Des personnes qui étaient politiquement et socialement engagées, progressistes, mais qui n'avaient généralement aucune complicité avec les enlèvements ou le FLQ. On a alors eu un aperçu de la puissance de frappe des forces réactionnaires de la société. On a mesuré la minceur des libertés civiles pour les gens suspectés de contester l'ordre établi. Pendant plusieurs décennies qui ont suivi, la violence politique a pratiquement disparu dans l'arsenal des luttes sociales au Québec, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays. Des mouvements aux objectifs ouvertement révolutionnaires et aux ressources beaucoup plus imposantes que le FLQ sont restés cantonnés à des moyens de lutte politique légaux et ont diffusé leurs idées essentiellement par du papier. La dernière décennie a cependant vu une recrudescence des affrontements violents entre l'État et des secteurs de la population en lutte. Et sans surprise, comme à Toronto en juin passé, on a vu encore une fois la facilité avec laquelle la répression policière faisait voler en éclats les garanties démocratiques officielles. Donc je crois qu'aujourd'hui comme hier, quiconque espère apporter des transformations radicales à la société doit le faire sans illusion, sans naïveté. Et ne jamais oublier que dans un État capitaliste, l'arbitraire policier et militaire n'est jamais caché bien loin derrière la Charte des droits.
Merci beaucoup.
Bienvenue.
Merci pour cette lecture un petit peu différente là, qui justement comme tu l'introduisais nous fait croire que le FLQ c'est juste la crise d'octobre. Est-ce que tu as des références ou des lectures pour des gens qui voudraient en apprendre plus sur un point de vue alternatif et qui ont malheureusement raté la conférence de vendredi passé?
La référence de base, c'est un livre de Louis Fournier, si je me souviens bien, s'appelle « Le FLQ, un mouvement clandestin ». C'est un livre qui a été publié autour de 1980 et qui détail, là, qui raconte dans le détail toutes les actions du FLQ de sa naissance à sa mort. Pas très analytique, mais très détaillé au niveau des faits. Sinon, il y a des recueils de textes qui ont été publiés aussi sur le FLQ. Et plus récemment, tous les écrits de Charles Gagnon de l'époque du FLQ ont été publiés.
Et donc, comme je le disais en début, si vous voulez une version, un extrait historique là, qui vous rappellera pas tout le contexte, mais qui est plutôt sympathique à lire, alors on rappelle aux éditions Lux Éditeur le procès des cinq, qui est donc un extrait du procès de Gagnon, Chartrand, Vallière et Lemieux et La Rue Langlois. Donc aux éditions Lux Éditeur. Merci beaucoup François d'avoir été avec nous.
Ça m'a fait plaisir.